Les plumes sur RCN, présentées par Mona.
Bonjour à tous. Elle rend hommage à ses grands-parents maternels, lui raconte une partie de la vie de son aïeul maternel et tous deux parlent de la Meuse. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Isabelle Ladonnet pour son roman La bouquiniste, publié aux éditions Maya, et Jean-Luc Quémard pour son roman Le retour de Louis, un poilu de la Grande Guerre, publié chez L'Harmattan. Avec nous également John Bullitt qui nous fera la lecture de sa nouvelle La main gauche. Bonjour à vous trois et bienvenue.
Bonjour.
Bonjour.
Alors nous allons commencer avec Isabelle Ladonnet et son roman La bouquiniste. Alors Isabelle, vous êtes titulaire d'une agrégation de lettres modernes et d'un DEA de littérature médiévale et ancien français et vous enseignez à l'Université de Lorraine. La bouquiniste est votre premier roman. Alors qu'est-ce qui vous a poussé à écrire, à passer de l'autre côté du miroir si je veux?
Eh bien, je pense que c'était une envie que je portais depuis toujours, hein, ayant fait des études de lettres, ayant pendant N années parlé de livres et travaillé aussi autour de l'écriture sous différentes formes et même encore maintenant. Et puis, voilà, je n'avais pas forcément le temps. Pour ça, j'avais un petit peu écrit tout de même en tant que chercheur, publié des communications. Et puis, un matin de juin, je me suis réveillée et je me suis dit, je vais m'y mettre cet été. Et voilà, je me suis lancée.
Alors, qu'est-ce qui a inspiré cette histoire et ces personnages?
Alors ça, c'est... totalement, pour le coup, c'est totalement fictif. Hein. Sur les salons, les gens me disent « Ah, c'est votre histoire, vous vous êtes inspiré d'eux ». Non, je suis pas sûre qu'il y ait quelqu'un qui ait jamais fait d'ailleurs ce que Marie fait voilà, avec les livres. C'est né en fait un petit peu d'une réflexion sur les possibles, je dirais, du livre. Au départ, je voulais qu'elle change les livres parce que voilà, Marie, qui est donc la bouquiniste, l'héroïne principale de mon roman, change par idéal, on va dire, par conviction, pour ancrer aussi peut-être certains textes dans notre époque contemporaine. Et elle change deux phrases de deux romans. Oui, et au départ, oui. Je voulais qu'elle change les livres, en fait, pour qu'elle adapte un petit peu l'histoire à ses lecteurs, pour que les livres leur fassent du bien. Parce que voilà, moi j'ai cette idée comme ça du livre qui apporte, qui fait du bien, qui fait réfléchir, dans lequel on peut trouver des réponses à ses propres questionnements. Et puis ensuite, j'ai fait évoluer l'intrigue vers celle qui est celle du livre, voilà, assez naturellement, je dirais.
Alors parlez-nous de Marie. En fait, elle était à l'origine, elle est secrétaire médicale.
Voilà, alors Marie donc est une jeune fille, une jeune femme toute simple, très très introvertie qui vit surtout à travers les livres et dans les livres. Elle a peu de vie réelle en fait, c'est un petit peu une vie par procuration qu'elle a grâce aux livres et elle est effectivement au début du récit, secrétaire médicale dans un hôpital. Et ça se passe au début du Covid. Et donc, elle va avoir cette opportunité de racheter une bouquinerie. Et elle va y voir la possibilité de pouvoir donner vie à son rêve, qui est de vivre au milieu des livres et d'essayer d'en vivre.
Oui, oui. Alors, vous écrivez page 35, si elle, Marie, aimait lire, elle n'appréciait pas toujours pour autant le sort que les auteurs réservaient à leur personnage. Et donc, la voici comme une sorte de justicière qui réécrit un passage qui ne lui plaît pas.
C'est
enfin,
ça.
Elle choisit quand même La chute d'Albert Camus et La promesse de l'aube. C'est quand même un peu...
Alors, oui, pour La promesse de l'aube, c'est vraiment une petite phrase qui, effectivement, aujourd'hui, aurait une autre. On ne va pas spoiler.
Oui, bien sûr.
Voilà, mais... c'est une phrase qui, aujourd'hui, dans la situation actuelle, aurait une autre résonance qu'elle n'en a eue, sans doute même pas d'ailleurs à l'époque. Et pour Albert Camus, elle, là, c'est plus un aspect du personnage, cette non-réaction en fait du juge qui la gêne. Oui. Quelque part, ça peut être au fond la réaction que tout lecteur a face à un roman, même un roman qu'on apprécie, mais il y a toujours peut-être des passages ou des aspects ou des choix que fait l'auteur qui ne sont pas forcément ceux qu'on aurait fait, ou parfois un roman, ben, à la fin, on va être plutôt en désaccord ou on va plutôt ne pas apprécier. Donc ça, je dirais, c'est un petit peu à la fois le jeu et le risque quand on écrit, c'est de la réaction. Des lecteurs qui n'abondent pas toujours dans notre sens, mais quand on peut échanger avec eux a posteriori ou sur les salons, quand on en retrouve parfois, c'est ça aussi qui est intéressant pour nous auteurs, c'est d'échanger et de discuter.
Oui, bien sûr. Mais de changer les phrases de roman, c'est quand même un délit.
Oui, ça, c'est un délit, effectivement. Voilà, elle franchit ce pas en se disant que de toute façon... personne ne s'en rendra compte et que c'est de l'autosatisfaction en fait.
Oui, oui.
Elle, ça la gêne. Donc voilà, elle fait un peu le ménage. Voilà.
Alors, mais aujourd'hui, la mode n'est-elle pas de modifier le titre de tel ou tel ouvrage ou même de modifier une partie des textes qui ne correspondent pas à la politique actuelle?
Oui,
en fait,
c'est effectivement. Alors, sans dire que voilà, c'est une forme de wokisme ce qu'elle fait.
Oui.
Mais il y a effectivement le roman. Enfin, à travers ce roman, j'ai voulu quand même poser effectivement la question de la réécriture. Un petit peu aussi de la perdurance des textes, c'est-à-dire un texte qui est écrit et qui peut être ancré dans le contexte de celui de son auteur à une période avec les idéologies, les croyances, les acceptations, etc., idéologiques qui sont celles de son temps. Quelle résonance a-t-il quelques années plus tard, quand la société a changé, quand les convictions ne sont plus tout à fait les mêmes. Voilà, ça pose cette question, ça interroge en fait sur la vie des textes.
Oui, bien sûr. Mais en même temps, on peut tout réécrire, du coup.
Oui, voilà, parce qu'il y a l'idée de ce qui est de l'adaptation et puis ce qui est de la trahison.
Bien sûr.
Du texte initial.
Mm-hmm.
Alors,
autant moi je ne suis pas pour changer, autant je peux comprendre un petit texte explicatif au départ pour expliquer un peu les circonstances, ça changerait. Mais je trouve que c'est quand même une trahison de modifier.
Oui, aussi. D'ailleurs, je dis à la fin dans les remerciements que je remercie tous les auteurs de tous les livres que j'ai pu lire et aimer comme ils étaient, sans rien vouloir changer. Voilà.
Alors, le personnage de Vincent Robillard est détestable, suffisant, manipulateur et malhonnête. Vous ne l'avez pas gâté, celui-là, comment ?
Non. J'ai créé un personnage qui était en fait l'antithèse et vraiment aux antipodes de Marie, qui est vraiment la jeune femme très simple, qui a comme ça des idéaux, qui ne pense pas au mal, par opposition donc à ce personnage un peu pervers, manipulateur, et qui gratuitement au fond va vraiment la pousser dans ses extrêmes retranchements et véritablement s'en prendre à elle.
Bien
et
sûr.
Elle va devenir la proie de ce personnage pas très sympathique n'est pas inspiré de modèles réels à proprement parler, mais correspond à des types qui peuvent...
Mais en même temps, c'est une espèce de fascination, mais enfin malsaine de la part de Marie. Elle est sans réaction face à cet homme-là.
Oui, elle est prise au dépourvu, elle est sans réaction parce que... lui est assez fin, assez malin, alors que elle n'a pas comme ça cette idée ce même état d'esprit que lui.
Mm-hmm.
Elle a moins d'armes que lui aussi pour se défendre. Hein. C'est vraiment un petit peu le loup et l'agneau. Hein.
Oui, c'est
elle est vraiment la proie et voilà. Par ailleurs, alors c'est vrai que Marie est un personnage qui est quelqu'un de timide et effacé,
oui,
qui a du mal même à s'affirmer d'une manière générale dans la vie. Mais moi, je pense que dans la vie, on peut être parfois, quel que soit le caractère que l'on a, sous la domination de quelqu'un dont on a du mal à se défaire et auquel on a du mal à dire non.
Oui, oui.
Parce que bah, parfois, on a effectivement, des gens peuvent avoir un ascendant sur nous.
Mmh. Et c'est vrai. Alors, heureusement, pour les hommes, vous avez créé un beau personnage avec François Doinel, bien
voilà,
sûr.
Voilà, qui va un petit peu équilibrer.
Oui, c'est ça.
Hein, donc, alors lui, je l'ai appelé François Doinel pour François Truffaut et Antoine Doinel.
D'accord.
Voilà. et donc, j'en ai fait le personnage de l'inspecteur qui ben, va faire son métier d'enquêteur et va recevoir la plainte de Vincent, écouter ensuite Marie. Et
puis, parce qu'il faut dire quand même que voilà le malhonnête Vincent Robillard, il dénonce la supercherie.
Voilà, il va dénoncer.
Voilà,
voilà, parce que en fait, à partir de ces deux petites phrases changées, Marie, à cause de Vincent, va se retrouver mêlée à une supercherie littéraire et à vendre un four aux Lombards. Mmh. Voilà.
Oui. Donc, c'est pour ça qu'elle va avoir affaire avec...
Elle va effectivement avoir affaire avec la justice parce que Vincent va se retourner contre elle et va l'accuser de manière fausse et assez honteuse et abusive.
Oui, oui, oui. Perverse, carrément.
Voilà.
Alors, au-delà de l'univers des livres, quels sont les thèmes principaux que vous explorez avec la bouquiniste? Le destin?
Alors, il y a l'idée, oui, du destin. Parce que d'ailleurs, là, je suis sur mon troisième roman et je reprends comme ça cette idée du destin. Parce qu'à titre personnel, voilà, ça m'interpelle depuis toujours beaucoup. Ce qui fait que... parfois, les éléments se mettent en place et s'enchaînent pour que tout se passe bien, ou oui, d'autres fois, non. Voilà, je m'interroge encore sur la part en tant qu'être humain que l'on a quant aux décisions que l'on prend par rapport à notre destinée.
Mm-hmm.
Voilà, j'ai voulu à travers donc ce personnage de Marie montrer comment sa destinée, qui au départ est assez lisse, va pour un petit pas de côté, finalement la retrouver être mêlée au cœur comme ça d'un destin dont les fils sont emmêlés et qu'elle n'arrive pas à démêler. Mmh. Hein, j'évoque le syndrome Perrette.
Hein, oui.
Perrette et le pot au lait de La Fontaine qui fait son petit pas de côté en dansant, heureuse qu'elle est de se réjouir de ce qu'elle va pouvoir s'offrir et améliorer sa condition et puis renverse son lait et finalement, adieu vos vaches cochons. Et elle craint de rentrer chez elle parce qu'elle sait que son mari va la battre.
Oui. Ça, c'est vrai. Alors, est-ce que le choix de la chute d'Albert Camus porte en lui le germe de la chute de Marie?
Alors oui, un petit peu, de manière métaphorique. La seule chose qui est vraie dans le roman, c'est vraiment l'évocation de tous les textes que je cite, qui sont parmi voilà, tous les textes, un certain nombre comme ça que j'ai cités. Et moi, j'ai lu la chute d'Albert Camus quand j'étais en troisième. Et j'ai été bouleversée, complètement saisie par ce texte, la manière de raconter, etc. Jusqu'alors, pendant toute la quatrième, j'avais lu une grande partie de Balzac. Donc là, ce style, cette narration, ça a changé complètement pour moi et ça m'a bouleversée. Donc moi, j'aime vraiment beaucoup ce texte d'Albert Camus.
Mm-hmm.
Voilà, et je me suis dit que ça pouvait annoncer de par le titre. Quand je lui fais refaire la chute de Camus, là, je pousse vraiment de manière exagérée son intention.
Oui.
Alors que je ne le fais pas de la même manière, par exemple, sur la petite phrase de Romain Gary.
D'accord. Alors, Marie nous fait part de beaucoup de ses lectures. En fait, ce sont les vôtres.
Ce sont les miennes. Ah, oui,
bien
j'avoue.
Sûr. C'est ça.
J'avoue.
C'est très éclectique, mais c'est très...
Oui, mais je dis beaucoup.
Oui, oui.
Voilà, pour mon travail et aussi pour moi. Voilà, j'ai sur des proches et puis des lecteurs qui m'ont dit que ça leur avait donné envie, par exemple, de relire La Chute ou de lire certains que j'évoque et qui sont moins connus. J'en connais même qui font des jeux... des cercles comme ça de lecteurs et qui se lancent des défis, avoir lu le plus livres qui figurent dans la bouquiniste. Voilà.
Oui, oui. Alors moi, j'ai beaucoup aimé La papeterie de Tsubaki.
Oui.
Ah, c'était, oui. C'était vraiment adorable comme livre. Oui. Alors, est-ce que comment on dit, vous parlez beaucoup de Roland Barthes dans votre récit.
Oui.
Alors, qu'est-ce qui vous fascine chez lui?
Alors, c'est Roland Barthes, oui. J'ai envie de dire, et tout est dit.
Oui.
Mais Roland Barthes, je l'évoque aussi par rapport au pouvoir de la langue, de la parole, qui pour moi, est un fait qui est incontestable et que... dont la preuve est un peu apportée à travers les deux personnages de Vincent et Marie.
Oui.
Marie, très taciturne, qui parle peu, face à Vincent, le professeur de philosophie, qui manipule la parole et à travers ça arrive aussi à manipuler.
Bien sûr, pourtant elle a les mots, elle a le vocabulaire.
Oui, mais elle a cette retenue, cette timidité qui est aussi un petit peu celle de son milieu. Je pense quelque part que jusqu'à un certain point et pour un grand nombre de personnes, le milieu dont on est issu, quelles que soient les études que l'on fait, continue à avoir une importance. Et pour Marie, ce milieu a beaucoup d'importance et elle calque sa façon de vivre sur celle qu'elle a reçue. Le seul écart qu'elle fait par rapport à sa famille, ce sont les livres qui sont son domaine à elle, mais qui la mettent dans une communication très intime et très secrète dans son rapport aux livres. Elle n'échange pas particulièrement, un peu avec sa professeure de français, mais sinon elle n'échange pas, par exemple, avec ses parents ni avec des amis sur les livres qu'elle peut lire. Donc elle garde tout pour elle. Donc c'est une communication qui reste secrète.
Alors, la formule, c'est quand même un peu une tragédie ancienne, parce qu'on connaît déjà que ça, on sait déjà que ça va mal finir, rien qu'en lisant le prologue.
Oui, même si il y a quand même l'épilogue.
Oui, bien sûr.
J'ai coupé. J'avoue qu'au départ, j'avais tout lié, en fait. Et puis, a posteriori, je me suis dit, ce serait peut-être bien de ménager un petit suspense et de qu'on laisse.
Oui, mais on ne sait pas ce qui arrive. On sent que ça va mal. Il va y avoir des soucis quand même.
Oui, et je l'ai construit effectivement comme une tragédie. Hein. C'est comme ça que j'ai fait mon plan au départ. Hein. J'écris sur ordinateur, mais je fais mes plans et mes petites idées sur un carnet papier. J'écris, voilà. Et donc, il y a un prologue, les cinq actes, et puis le dénouement.
Alors, est-ce que vous avez un livre que vous avez honte de ne pas avoir lu encore?
Ah, bonne question. j'ai pas la réponse.
Vous n'avez pas la réponse?
Pardon.
Oh, non, mais et votre livre préféré de tous les temps?
Mon livre, j'aime La Grève de Ayn Rand. Celui-ci, je ne l'ai pas relu, je l'ai lu qu'une fois parce qu'il est assez, assez volumineux, mais si je dois le mettre en tête.
Oui. Et vous avez des livres que vous relisez régulièrement?
Oui, assez régulièrement. Je peux relire du Borges, par exemple, parce que j'aime beaucoup et parfois je me dis ça fait un petit peu longtemps que j'en ai pas lu, donc j'en relis. Et je peux relire du Balzac ou du Zola aussi.
Oui, d'accord. Et alors, vous avez déjà des projets, puisque je vous ai entendu dire que vous étiez dans votre deuxième...
Alors, oui, après la bouquiniste, donc, j'ai enchaîné en commençant un second roman. Et puis, je l'ai arrêté dans l'écriture en mars dernier, quand j'ai commencé à signer mon contrat, en fait, chez l'éditeur, parce qu'après, j'ai relu, etc. Bon. Et puis, en septembre, juste avant sa parution, j'ai eu une expérience, on va dire, personnelle et littéraire, qui m'a donné l'idée d'un texte, voilà, que j'ai été obligée d'écrire, mm-hmm. et que j'ai terminé fin janvier. Voilà, et que j'ai donc envoyé là début mars pour ouais. l'édition. Et donc là, je reprends celui qui était le deuxième et qui va devenir en fait le troisième.
Ce sont des romans donc tous les
voilà.
deux.
Voilà. Alors le second est un texte autobiographique.
D'accord.
Voilà. Et le troisième, oui, est un roman.
D'accord. Eh bien, nous allons faire une pause musicale et nous revenons après Clara Isée.
Parce que tu sens que ça glisse, ce monde sur lequel on tisse, des mots toujours un peu plus lisses, des mots qui nous trahissent. Dis-moi, toi, sens-tu que ça glisse? Le doute, je l'ai vu dans ton iris, quand tu as entendu l'actrice dire je veux que ce monde périsse, qu'il périsse. Les rois du désespoir.
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 Les rois du désespoir se regardent dans le noir. Les rois du désespoir. Les rois du désespoir. Les rois du désespoir. Les rois du désespoir se regardent dans le noir.
Ce matin tu m'as dit tu sais. On essaye d'avancer, mais tout est à l'arrêt. On a fait 100 fois le chemin, depuis l'espoir jusqu'au chagrin. Et maintenant tu vois, on en a assez d'écouter que les beaux jours vont arriver. Nous, on le prend comme il est, le monde et ses regrets.
Les plumes sur RCN, Mona.
Nous sommes toujours avec Isabelle Ladonnet, venue nous parler de son roman La bouquiniste, publié aux éditions Maya, et Jean-Luc Quémard, venu nous présenter son roman Le retour de Louis, un poilu de la Grande Guerre, publié chez L'Harmattan. Avant de parler du livre de Jean-Luc Quémard, John Bullitt va nous faire la lecture de sa nouvelle La main gauche.
Boule de suif, et gros et laid, avec une moustache ridicule sur sa peau grêlée. Boule de suif n'a plus qu'un seul bras, car l'autre s'est envolé il y a presque 2 ans à la bataille de la Marne. Mais il pointe comme personne, et vous envoie son obus avec une précision chirurgicale au beau milieu des régiments ennemis, éventrant les lignes de soldats allemands ou autrichiens, ne laissant derrière lui que cris et hurlements de douleur. Il sème la mort et m'est fort utile depuis son retour parmi nous, même dans son état. Je suis le lieutenant Jean Humbert du 5e régiment d'artillerie. Et grâce à lui, nous contraignons jusqu'à présent la 3e division Rheinfall face à nous. À rester au fond de sa tranchée, au risque d'être anéanti par nos obus si ses soldats tentaient une sortie à découvert. Ah, jamais je n'aurais pensé, moi, le chef d'orchestre de la Philharmonie de Lyon, de voir un jour mettre mon talent d'organisateur et mon intelligence musicale au service de la mort et de la destruction. Mais j'ai reçu la semaine dernière des ordres formels. « Lieutenant, vous tiendrez ce secteur, quoi qu'il en coûte. Je dis bien, quoi qu'il en coûte. » Peu importe si vous vous retrouvez le dernier appuyé sur la détente de votre fusil ou de votre canon. À Verdun, on ne recule pas. C'est la victoire ou la mort. Oui, cette guerre a plutôt un goût de symphonie inachevée tant elle se prolonge indéfiniment. Plus de 2 ans déjà que ça dure avec son lot de morts, de défaites, de victoires. Ses enterrements, ses médailles, ses monuments aux morts vides de sens. Et l'ennemi, ah, l'ennemi que nos chefs nous décrivent, si terrible, si sauvage, un culte qu'on affuble de toutes les vilainies, de tous les vices. Et pourtant, quand je songe aux rencontres que j'avais faites en Allemagne avec des chefs d'orchestre, des musiciens inventifs avant cette satanée guerre, c'est le bruit violent d'une déflagration. Ah! « Mein Gott, je suis au bord de défaillir, la tête me tourne, la dernière salve d'obus envoyée par ces damnés Français nous a touchés de plein fouet dans notre tranchée. Les réserves de munitions imprudemment mises au milieu de la tranchée ont explosé elles aussi, provoquant le chaos et la mort parmi nous, les fusillés allemands de la 3e division Rheinfall. Hans, mon meilleur ami, j'y face contre terre, poitrine déchiquetée par un éclat de shrapnel. Quant à l'oberlieutenant, Franz Kleinschmidt, il ne reste à sa place que sa belle casquette et sa trique d'officier. Et quant à moi, j'ai perdu mon casque à pointe. Du sang coule de mon crâne aveugle ma vision. De ma main droite, il ne reste plus rien qu'un lambeau de peau des os écrabouillés. Une nouvelle salve d'obus vient de retentir et nous atteindre à nouveau. Le souffle de l'explosion m'a projeté soudainement en dehors de notre tranchée. Aveuglé par le sang qui coule sur mes yeux, obscurci mon cerveau, je ne vois plus rien. Me met à ramper cherchant le refuge illusoire de ma tranchée. On les a encore eus, lieutenant, en plein dedans. Ah, doit plus rester grand-chose de vivant de ces canailles. Ah, faut dire que les tranchées sont si proches l'une de l'autre, hein. On pourrait presque jouer au foot ou à la courte paille, tellement c'est près. Oh, attendez, lieutenant, il y en a un qui cherche à s'approcher en rampant. Ah, je m'en vais le dégommer à la baïonnette.
Du calme, boule de suif, du calme. Une symphonie de la mort se joue parfois pianissimo. Et vu comme il bouge, c'est plutôt mortissimo. Allez, passez-moi mon fusil à lunettes. Je vais l'achever.
Oh, lieutenant, vous êtes trop grand seigneur. Ça mérite que la baïonnette, cette engeance-là.
Et où est-il passé? Ah, dans mon viseur, je le vois plus précisément à présent. Effectivement, comme je le supposais, dans son état, il présente pas grand danger pour nous. Il semble complètement désorienté et vient même vers notre tranchée. Encore quelques mètres et je vais mettre fin à son calvaire. Hein? Tiens, son visage est couvert de boue et de sang mêlé, mais c'est curieux. Il me rappelle vaguement quelqu'un.
Ben allez-y, lieutenant, faites-lui exploser le ciboulot!
Ah, l'idiot, il est tombé la tête la première dans une flaque d'eau. On le reverra plus, il va se noyer, c'est sûr.
Bon, ben, c'est parfait. Alors, dans ce cas-là, lieutenant, je prépare une dernière salve en visant la tranchée pour la nettoyer avant que ces gaillards viennent à nouveau la remplir avec des troupes fraîches. Hein.
Oui, Oui, très bien, boule de chiffre, très bien. Vous pouvez envoyer la musique, la sauce. Non, non, attendez. Non, non, un petit sol dièse diminué, je vois que notre idiot qui rampe est toujours vivant. il est sorti de sa flaque. Ah, mais c'est vraiment la symphonie pathétique maintenant qu'il joue ce gars-là. Je rampe encore et toujours. Allez, retour à la coda, on recommence tout. Incroyable. Mais maintenant qu'il est tout propre, notre idiot, même sans ma lunette de visée, je commence à mieux distinguer son visage. Et c'est vraiment curieux, vraiment, ce visage, c'est très... J'ai l'impression... Non, non, pourra-t-il que ce soit lui. Goûte, je suis presque revenu à ma tranchée. Les Français ne mourront pas. Je vais trouver du secours ici, sauver mon existence, car les obus ont cessé de pleuvoir. Mais sauver pour faire quoi? Oh, malheur, que vais-je faire de ma vie d'artiste à présent, sans ma main droite de concertiste? Ah, fini le pianiste émérite du Berlin Institut, fini les solos que le public applaudissait, à tout rompre, un estropié. Maudit guerre, maudit français. Paul? Paul Wittgenstein? C'est toi, Paul? Encore une dizaine de mètres et j'y suis. J'entends que quelqu'un m'appelle depuis notre tranchée. Ah, probablement un des rares survivants ou ceux de la relève. Mais descendez-le, lieutenant. Cet idiot commence à beaucoup trop s'approcher de notre tranchée. Je peux le faire, moi, avec mon pistolet. Même avec mon unique bras, je suis mon tireur, vous savez. Non, non, non. Paul, dis-moi que c'est toi. Réponds, Paul. Ah, tuffel, c'est la fin. Cette explosion m'a rendu à moitié sourd. J'ai plus assez de force pour leur répondre qu'ils doivent venir me chercher. Alors lieutenant, je le descends, l'autre idiot, ou quoi? Non, 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 pas encore. Ce serait invraisemblable que ce soit lui. Quoique, impossible n'est pas français, a dit Balzac. Ouais, qui c'est ça, encore mon lieutenant, hein? Encore un haut gradé complètement nul ou un politicard qui nous gouverne, hein? Non, rien de tout ça, boule de chiffre, rien de tout ça. J'ai une idée pour notre gaillard, notre partition commune. En voilà que j'entends de la musique. Ma musique, celle que j'ai écrite, remaniée avant la guerre sur les conseils de Jean Humbert, le français de Lyon. Impossible, je divague. Personne ne la connaît à part nous deux. Ah, mein Gott, je devrais plutôt entendre la marche funèbre. Vu mon état, fermer les yeux, reprendre des forces, voilà ce que je vais faire. Je vais le chercher. Si c'est lui, il serait trop idiot. Mais mon lieutenant, vous n'y pensez pas, les autres, ils vont vous tirer dessus et vous dégommer. En plus, il y a une chance sur un million que votre gars soit celui que vous dites. Je prends le brancard. Prenez mon fusil et couvrez-moi, boule de suif. J'y vais. Se faufilant sous les barbelés qui entourent la tranchée française, le lieutenant Jean Humbert se dirige vers le corps immobile du blessé, traînant derrière lui un brancard vide. Une fine pluie froide, désagréable, se met à tomber sur ses épaules, le trempant rapidement. « Paul ! Paul, tu m'entends ? Réponds, Paul, je viens te secourir !» Une voix française, ils ont dû envahir notre tranchée. Je lui réserve une petite surprise à ce français aussi, croit m'attraper facilement. Mon poignard peut encore armer ma main gauche, qui est valide, et le surprendre dès qu'il sera à ma portée. Ne bougeons plus. Je suis là, Paul. C'est moi. Oh, mais mon Dieu, qu'est-ce que tu fais? La main armée du couteau de l'Allemand se dresse soudainement et transperce le brancard. Dirigée vers le lieutenant, sa lame acérée bute heureusement sur le bois du brancard et l'empêche d'atteindre son but. D'un geste vif, Jean Humbert désarme l'homme à terre et l'immobilise. Paul, ne fais pas l'idiot, c'est moi. C'est moi, Jean Humbert, ton copain musicien. Tu n'as rien à craindre, je suis venu te sauver. En réponse, ce dernier entendit alors, chantonné faiblement par le blessé et d'une voix tremblante d'émotion. Ich war im Dunkel, als ein Sonnenstrahl den Himmel durchkam, mich rettete. Oui, j'étais dans l'obscurité quand un rayon de soleil perça le ciel, me sauva. Traduisez le lieutenant. Oui, c'est bien ça, le début de notre musique, de ta musique, Paul Wittgenstein. Et c'est bien moi, Jean Imbert, viens. Restons pas ici, il faut te faire soigner. Nos médecins s'occuperont de toi, je te le promets. J'ai là un brancard.
3 mois plus tard, loin des bombes et des fusils, les deux amis se retrouvèrent dans un hôpital français. Paul était sauf, mais malheureusement amputé de la totalité de son bras droit. Il n'avait cependant pas renoncé à reprendre son instrument fétiche, ne serait-ce qu'avec sa seule main restante. Pragmatique, il déclara à Jean que sitôt cette fichue guerre finie, il passerait commande à des compositeurs pour jouer, et jouer encore de sa merveilleuse main gauche. « Eh ben, je vois que rien ne t'abat, lui répondit Jean Imbert dans un éclat de rire. Écoute, je connais pas mal de compositeurs, et il y en a sûrement un parmi eux qui sera intéressé pour relever là ton challenge d'écriture pour main gauche. Tiens, je pense en particulier à ce compositeur prodigieux, Maurice Ravel, dont on m'a dit tant de bien. Eh, un concerto pour main gauche, ce serait une première. » Une belle revanche sur l'adversité, mon ami, non? Qu'en penses-tu?
Merci, John.
Les plumes sur RCN, Mona.
Alors Jean-Luc, comme je le disais en préambule, votre roman Le Retour de Louis, un poilu de la Grande Guerre, est basé sur des faits vécus par vos grands-parents maternels, Louis et Maria Schreiner. Alors comment leur histoire vous est-elle parvenue? Par des souvenirs couchés par écrit ou par tradition orale?
Alors c'est ma grand-mère, lorsque j'étais petit, 7-8 ans, qui m'a beaucoup raconté de choses sur mon grand-père, que lui-même lui avait raconté, car mon grand-père, je ne l'ai pas connu. Il est décédé en février 1939 et donc il a laissé son courrier, bien sûr, à ma grand-mère qui m'en a lu quelques-uns, voilà, en gardant précautionneusement, ce qu'il fallait pas qu'un enfant écoute, voilà. Alors donc tout ça, c'est ancré dans ma mémoire et depuis ce temps-là. Lorsque j'allais voir ma grand-mère, donc on en reparlait souvent. Mmh. L'adolescence est arrivée. J'ai commencé à écrire à l'âge de 15 ans. Et puis donc c'était de la poésie, mais sans relater pour autant donc le domaine familial. Et puis donc je suis devenu adulte, vieil adulte, et je me suis remis à écrire. Et là je me suis dit, je vais raconter quand même cette histoire que j'ai entendu enfant et adolescent. Voilà. C'est ce qui m'a amené à écrire donc ce roman, qui est la suite de Louis, La Grande Guerre de Louis. Voilà.
Oui, oui. Alors là, nous sommes en décembre 1916, et Louis Gazé, lors de la reprise du village de Besançon, près de Verdun, est évacué. Racontez-nous.
Alors, il est évacué dans un premier temps sur la gare de Verdun, qui est donc... était organisé pour faire un tri parmi les blessés afin de les évacuer dans les hôpitaux de l'arrière-front. Il est arrivé à Chalène, dans le sud de la Meuse, à proximité de Vaucouleurs, à l'hôpital numéro 32. Hein, c'est un hôpital complémentaire qui est géré entièrement donc par le personnel de santé militaire. Mmh. Et c'est là qu'il va être soigné et qu'il va connaître physiquement ma future grand-mère.
Oui, parce qu'il la retrouve, il la connaissait en fait.
Il la connaissait, voilà.
Oui. Et Maria était infirmière donc dans cet hôpital.
Dans cet hôpital, voilà. Oui.
Alors vous rendez dans votre livre, vous rendez hommage à toutes ces femmes anonymes qui ont participé à l'effort de guerre avec beaucoup d'abnégation, notamment les infirmières, les femmes qui s'occupaient de ces soldats blessés.
Oui, bien
blessés.
Sûr. Elles vivaient nuit et jour avec ces gens-là. Hein.
Oui, oui.
Donc c'était le réconfort du cœur qui parlait surtout, réconfort moral, et aussi bien sûr un réconfort matériel, qui leur manquait bien souvent d'ailleurs.
Oui, oui. Alors voilà. Vous parlez notamment de Marie Curie. Et effectivement, voilà. a fait beaucoup de choses. Marie, on n'en parle pas assez. Hein,
on n'en parle pas assez, cette noble dame qui donc a eu la très excellente idée, d'après ses découvertes du radium, de le mettre au service des hommes. Mmh. Et là, elle a voulu donc rendre un service exceptionnel donc à l'effort de guerre, en parcourant sur l'arrière-front et à proximité du front de temps en temps, avec sa fille d'ailleurs, en conduisant deux camionnettes avec les premières, disons, matériels radio. Et c'est là donc que les soldats ont pu donc être sauvés en localisant mieux les blessures. Voilà, donc tout le monde n'a pas pu, bien sûr, accéder à,
bien sûr,
disons, pas à cet avantage, mais à ce matériel. Mais les gens qui ont passé ces radios-là ont été assurément sauvés à 100% pratiquement.
Mmh. Alors ce roman, c'est aussi une belle histoire d'amitié entre Jean le Poilu, le copain de Louis, et de Hans.
Voilà, Hans, donc, c'est une histoire assez rocambolesque, puisque Hans était journaliste, et il venait souvent à Nancy, et il descendait à l'hôtel de la Reine, sur la place Stanislas, où il a fait connaissance de Jean, qui était barman, et ils se sont retrouvés sur le front en 1915, et un a été prisonnier, et l'autre son gardien. Voilà. Et ce Hans donc va arriver sur l'hôpital complémentaire de Châlène pour assumer le rôle de brancardier. Et Jean donc qui était également gazé donc le retrouve là et l'amitié continue entre deux. Et comme finalement cette amitié a été partagée avec Louis et un certain Marcel qui ne reviendra pas lui. Donc c'est toute une histoire d'amour et d'amitié et j'ai voulu décrire donc cette chose-là car finalement elle n'a pas de frontières. L'amour et l'amitié n'a pas de frontières, même dans l'adversité. Mm-hmm. Alors des histoires de cœur vont se nouer avec une autre infirmière qui se prénomme Félicie. Mm-hmm. Voilà, et Hans donc va en tomber amoureux. Voilà.
Enfin, il fallait quand même qu'il fasse attention, alors
parce que
le monde n'est pas d'accord quant à bien traiter les prisonniers allemands, bien sûr.
C'était donc un monde caché, quoi, finalement.
Oui, c'est
ça. Dissimulé, et d'ailleurs, il correspondait donc avec des codes dans les courriers. Mmh. Voilà. C'était une chose qui a été mise au point, très intelligemment d'ailleurs, et que j'ai tenu à faire découvrir donc au lecteur. Il y a toujours moyen de détourner la censure.
Alors malheureusement, l'armée étant à court d'effectifs, Louis va être renvoyé sur le front, alors qu'il n'est pas tout à fait vraiment guéri. Hein.
Il n'est pas tout à fait remis, mais bon, comme disent les supérieurs, il faut de la chair à canon. Hein. Et donc cette chair à canon, donc, lorsqu'elle est disponible et remise quasiment sur pied, donc c'est le retour au front. Mmh. Bien souvent, ce sont des retours, c'est jamais désiré, c'est sûr, parce que bon, échapper à la mort une première fois, c'est pas sûr d'y échapper une seconde fois, mais bon, tout se passe bien pour lui, heureusement, et moins pour les autres.
Oui, c'est vrai. Alors, beaucoup de... Les pauvres poilus n'étaient quand même guère soutenus par les généraux, notamment Nivelle, qui faisait fi de la vie des soldats. Ce n'est guère étonnant qu'il y ait eu des mutineries, quand même.
Ben, les mutineries, ce sont des faits qui se sont déroulés en mars-avril 1917, suite aux assauts répétés et non efficaces, donc, au chemin des Dames. Mm-hmm. Voilà, et les soldats voulaient bien mourir, mais mourir, disons, en héros et pas en victimes, quoi. Parce que là, c'était plus des victimes que des héros, puisque les Allemands les attendaient toujours de pied ferme, quoi. Donc c'était, disons, le retour de l'arroseur arrosé, quoi. Finalement, voilà. Alors, cette histoire-là a miné pas mal moralement donc, les troupes françaises à l'époque, et il a fallu un pétain qui arrive sur place pour remplacer ce Nivelle qui était plus tard surnommé le boucher, voilà. Car il faisait fi vraiment de la personne humaine.
Oui. Oh, bah, Pétain n'était pas...
Pétain était, prenait soin plus des... prenait beaucoup plus soin des hommes. Mm-hmm. Il ne faisait pas, disons, d'assaut sans réflexion. C'était des assauts à, comment je veux dire, à objectif limité. C'est-à-dire que lorsqu'on tenait une position, on la tenait avant donc d'aller plus loin. Pour aller plus loin, il fallait donc une réorganisation, un appui d'artillerie, ainsi de suite. Et là, on pouvait recommencer, mais pas dans le cas de Nivelles. Voilà.
Alors, beaucoup de soldats ont été blessés et nombreux ont été défigurés, comme ce pauvre André. Vous voulez nous en parler ?
Alors oui, car on ne parle pas assez donc des gueules cassées.
Hein,
il y en a eu 15 000. Et ces gens-là souffraient intérieurement beaucoup, puisque c'est malheureux ce que je vais dire, mais c'est quand même grâce à eux que la chirurgie plastique a pris de l'ampleur. On a découvert beaucoup de choses, donc finalement, grâce à ces gens-là. Mais ce n'était pas, disons, toujours gagné d'avance, hein, de refaire une mâchoire, de refaire un nez, de refaire des joues, et ainsi de suite. Il manquait toujours quelque chose. Mmh. Et ces gens-là, quand ils revenaient en permission, ou même à la fin de la guerre, lorsqu'ils sont rentrés chez eux, défigurés, il y a des familles qui étaient, disons, dépourvues d'attention pour eux, à leur égard, puisqu'ils ne les reconnaissaient pas.
Oui, puis ils n'arrivaient pas à les regarder, voilà. En fait.
Alors, donc, quand ils écrivaient, ils n'écrivaient pas vraiment ce qu'ils avaient. Mm-hmm. Mais c'est quand la maman, les enfants, donc, voient le papa ou l'oncle ou le neveu rentrer, ça fait peur. Mm. D'ailleurs, il y avait une circulaire qui les interdisait d'aller au théâtre, de fréquenter des cafés afin de préserver la population, de voir ces hommes complètement défigurés. Quoi.
Oui, sachant qu'en plus, c'était très douloureux, ils souffraient
c'est
énormément.
C'est très douloureux, d'ailleurs, dans leur fort intérieur et aussi physiquement, bien sûr.
Oui, bien sûr.
Double peine.
Oui, c'est ça.
Voilà. Ouais. C'est malheureux, mais encore aujourd'hui, de toute façon, ça existe. Hein. Faut pas se leurrer. Dans les guerres modernes, quelle que soit, disons, l'ampleur du conflit, ça existe toujours.
Voilà. Oui, il y a toujours tant qu'il y aura des mines, de toute façon.
Voilà, exactement.
Oui, oui, bien sûr. Voilà. Enfin, on est un peu plus équipés maintenant pour les...
Sans doute, oui. Ça guérit sans doute mieux. Et puis, beaucoup plus, disons, de la chirurgie a quand même évolué, très, très évolué.
Mm-hmm. Alors, vous nous racontez la dernière bataille du 11 novembre, bataille engagée alors que l'armistice avait déjà été signé. Vous voulez nous raconter cette histoire ? Parce que c'est peu connu, en fait. Hein.
Alors, l'armistice, donc, signé le 11 novembre à 11h, comme chacun sait, mm-hmm. Ce sont les morts qui ont été donc tués le 11 novembre, ont été déclarés morts le 10 novembre. Voilà.
Oui, parce qu'ils sont morts voilà. Après l'armistice.
Ils sont morts après l'armistice, voilà.
Donc personne n'a voulu le reconnaître. Hein.
Alors donc, c'était une histoire, disons, de pension surtout. Mmh. Voilà. Car après-guerre, donc, il y avait un délai pour les blessés graves qui mourraient après, donc que la veuve ou les ayants droit puissent toucher la pension. Mmh. Voilà. C'était une histoire pragmatique, quoi, finalement.
Oui, bien sûr.
Faites sur l'humain. Quoi.
Oui, mais en même temps, c'était aussi une façon de cacher qu'il y avait eu quand même un petit couac, quand même, non ? Quand on en voit quand même les gens se faire tuer alors
c'est
que l'armistice
que...
est signé, c'est un petit peu problématique.
Voilà. Du côté français, bon, ben, si je prends donc le dernier poilu décédé à 10h50, c'est un peu idiot, c'est vrai, faut le reconnaître. Mais donc, il fallait conquérir de plus en plus de terrain jusqu'à la signature de l'armistice, qui a été signée à 5h du matin, d'ailleurs, mais rendu donc effectif à 11h. Donc, de 5h du matin à 11h, il fallait encore, finalement, faire la guerre, ce qui est aberrant. D'ailleurs, le dernier soldat de toute nationalité confondue est mort à 10h59. Il s'agit du soldat américain Gunther.
D'accord.
Avec un canon allemand en plus, voyez, voilà, qui est mort donc pas très loin de Verdun, du côté de Romagne-sous-les-Côtes. D'ailleurs, il y a une stèle en sa mémoire et j'ai assisté à une cérémonie le 11 novembre 1918 avec des Américains qui sont venus le saluer particulièrement.
Oui. Alors bon, le pauvre Louis a réchappé, voilà. Encore une fois, mais il n'a pas vécu très longtemps, puisque
ben non, parce
ses blessures de guerre... C'est,
voilà, il est gazé, donc il a travaillé ensuite donc, au four à chaud de Vaucouleurs, dans la poussière de la chaux, et ainsi de suite. Ce n'est pas vraiment non plus l'idéal.
Oui, ça
voilà, pour la respiration poumons, oui. Et les poumons. Mmh. Hein. Et donc, il est mort des suites de guerre. Voilà.
Mmh. Alors, je crois que vous avez été militaire.
Voilà,
ça
exactement.
Ça ne vous a pas empêché d'être militaire, toutes ces histoires ?
Non, pas du tout. Justement, c'était finalement une histoire d'hommage à mon grand-père. Quoi. Voilà.
D'accord. Et vous n'avez pas regretté votre
engagement ? Non,
votre
pas du tout. Non, non, je n'ai pas regretté. Bon, j'ai participé à quelques campagnes, mais... qui n'a rien à voir avec la Grande Guerre. Bon, mmh. Je suis allé au Liban, voilà, un peu partout. Quoi. Voilà.
Mmh. Alors, et... vous avez d'autres projets d'écriture ?
Ah oui, bah, c'est déjà en route.
Ah bon ?
Alors, figurez-vous, je peux en parler ?
Oui, bien sûr.
Alors, donc, je vous l'ai peut-être déjà dit, mais je suis moniteur de randonnée pédestre. Mmh. Et mon dada, c'est de raconter au groupe que je mène donc, l'histoire vécue par ces gens-là. Hein, dans le domaine de la Grande Guerre, toujours. Et figurez-vous qu'au mois de septembre l'année dernière, j'ai conduit 3 groupes, car c'était donc le 110e anniversaire de la mort d'Alain Fournier, qui, donc, dans l'état civil, s'appelle Henri Alban Fournier. Et c'était des groupes d'enseignants, voilà. Ils ont appris beaucoup de choses sur cet auteur, à la... vie d'écrivain très courte, finalement. Et m'a pris l'idée, il y avait une dame qui me posait beaucoup de questions, qui n'a jamais cessé de poser de questions pendant les 5 heures de la randonnée. Et je me suis dit, tiens, je vais écrire un roman sur cette dame, bien sûr, maintenant que j'imagine, et qui lit le Grand Maulne, et qui veut savoir les tenants, les aboutissants, donc de la mort d'Alain Fournier. Voilà le thème de mon livre.
Impressionnant. Donc on retombe de l'histoire dans la littérature.
Voilà, c'est ça.
Alors merci à Isabelle Ladonnet d'être venue nous présenter son roman La bouquiniste, publié aux éditions Maya. Merci à Jean-Luc Quémard d'être venu nous parler de son roman Le retour de Louis, un poilu de la Grande Guerre, publié chez L'Harmattan. Merci à John Blitt pour la lecture de sa nouvelle La main gauche. C'était plutôt drôle, cette amitié franco-allemande. Ça rappelait un peu le livre de Jean-Luc. Merci à Laura qui était à la technique aujourd'hui. Et nous nous quittons avec Pink Floyd. Un beau jour pour la paix. Au revoir à tous et à bientôt pour une nouvelle émission des Plumes.
Merci. Onto the ground, and with glasses high, we raised a cry for freedom had arrived. On the day the wall came down, the ship of fools had finally run aground. Promises lit up the night like paper doves in flight. I dreamed. Now life devalues day by day, there's friends and neighbors turn away, and there's a change that even with regret cannot be undone. Now frontiers shift like desert sands, while nations wash their bloodied hands of Lord. Yeah.